Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui, bien
sûr. J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh, mon amour, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Les linguinés à la carbonara que me fait Manu à chaque fois que je les réclame, les tomates farcies d'iris l'autre soir de juillet dans le jardin, la tarte au citron meringuée que Fabien ne rate jamais, les nouilles sautées au brocoli que maman me fait à chaque fois que je rentre à Lille, la choucroute de la mer préparée par Jeff à un réveillon du 31 décembre, le riz sauvage d'Hélène et les beaux légumes avec lesquels elle reste toujours le bol, la soupe feu que Mine nous a cuisinée un dimanche midi, la salade de choux rouges et morceaux de dattes de Juliette un soir d'hiver, la soupe de carottes violettes de Steven quand il venait d'emménager, ou encore la carbonade flamande de ma belle-maman engloutie dimanche dernier. À chaque fois que quelqu'un fait à manger avec ses petites mains, je suis hyper touchée et je me souviens bien du moment. C'est plus que du fait maison en fait. Prendre le temps de cuisiner pour ses proches, c'est toujours y ajouter un supplément d'âme, une dose d'amour. Mais alors, que veut dire faire à manger à la maison? Que veut dire cuisiner plutôt que d'assembler des choses toutes faites? Se faire livrer son dîner via une appli ou manger dehors? Perso, j'aime tellement la bouffe que je passe beaucoup de temps à tester de nouvelles tables. Mais pour bien apprécier ce que je découvre au resto, et surtout pour bien comprendre les ingrédients et les techniques de cuisson, j'ai aussi besoin de mettre la main à la pâte. Surtout, recevoir à la maison les gens qu'on aime et leur faire à manger dans l'antre de son nid douillet, c'est à mon sens l'une des meilleures activités sur Terre. En deuxième partie d'épisode, je donne la parole à Tatiana Leva, chef au Servant, un restaurant du 11e qu'elle tient depuis 2014 avec sa sœur Katia, et qui sert une cuisine de terroir français aux influences asiatiques, comme elle le décrit elle-même. Celle qui est née à Manille, aux Philippines, et a fait ses armes à l'Arpège auprès d'Alain Passard, ainsi qu'à l'Astrance aux côtés de Pascal Barbeau, a également ouvert en 2018 avec sa sœur un nouveau restaurant, Double Dragon. Comment une chef aussi occupée à tenir deux des tables les plus courues de l'Est parisien se nourrit-elle? On a voulu savoir si dans la restauration aussi, les cordonniers sont les plus mal chaussés. En d'autres termes, est-ce que Tatiana mange aussi bien que nous quand on va au Servant?
Nous aussi, à la maison, on se régale de coquillettes au jambon, de choses comme ça, quoi.
Mais d'abord, j'ai reçu Arnaud, alias Fulguropin, qui tient un compte Instagram très suivi sur lequel il poste régulièrement des choses sucrées qu'il va goûter partout au gré de ses pérégrinations citadines. Sauf que Fulguropin ne se contente pas de tester toutes les boulangeries-pâtisseries devant lesquelles il passe. Il pâtisse aussi. De quoi faire des goûters maison à sa fille, genre des sablés infiniment chocolat de Pierre Hermé, pour son 4 heures, rien que ça. On vous glisse d'ailleurs la recette en description de l'épisode. Pour commencer, je lui ai demandé ce qu'évoque le fait maison à ses yeux.
Comme beaucoup de personnes, je pense qu'on a une vie assez occupée et même si on aime bien manger, on aime bien prendre du temps à table, on n'a pas forcément toujours le temps de s'installer dans la cuisine pendant assez longtemps pour cuisiner. Donc je dirais que le fait maison, c'est aussi une démarche de se dire qu'on fait au maximum soi-même, d'apprendre des techniques et de travailler au maximum des ingrédients, disons bruts. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui doit être très très élaboré, parce que déjà, j'ai pas forcément de grandes compétences de cuisinier. C'est plutôt une démarche, se dire, essayer d'aller chercher des bons ingrédients, suivant bon des valeurs qui me correspondent, et le plus brut possible, donc légumes, viande, des produits de base finalement, et les cuisiner à la maison, et suivant des inspirations qui peuvent être soit parce que j'ai envie de retrouver un goût qui m'a plu, qui vient de l'enfance, qui vient d'un restaurant où je suis allé par exemple, ou que j'ai envie de, voilà, je vois sur les réseaux sociaux, sur internet, une recette qui m'interpelle un peu, je me dis tiens, pourquoi pas essayer ça à la maison. Et voilà, c'est ça, c'est partir de produits bruts, essayer de faire au maximum soi-même et d'en tirer une expérience et puis aussi un savoir finalement.
Oui. Une satisfaction, un apprentissage, ouais, aussi, puisque après avoir fait quelque chose maison pour la première fois, ben, on a une corde à son arc.
C'est ça. Ce que je fais, ça reste des pâtisseries très simples, hein, à la maison. Mais voilà, ça permet un peu de se dire, ah tiens, bah, finalement, avec un peu de persévérance, un peu de temps, bah, on peut faire quelque chose qui s'approche de ce qu'on voit chez certains pâtissiers qui ont pignon sur rue à Paris. Ça permet aussi, je pense, le fait maison, de se rendre compte vraiment de ce qu'on mange aussi. Par exemple, ouais, si on fait un gâteau soi-même, on se rend compte, ouais, on met quand même telle quantité de sucre dedans, on met telle quantité. Il y a ce côté, retrouver un peu une liberté par rapport au choix de ce qu'on va manger. Et c'est-à-dire que finalement, à quoi on pourrait opposer le fait maison? On pourrait opposer ça à l'agroalimentaire, l'industriel.
Oui, la cuisine d'assemblage.
La cuisine d'assemblage. Et finalement, il y a eu quand même des scandales alimentaires, même sans scandale. Il suffit de regarder la composition de certains produits ultra transformés pour se rendre compte que voilà, il y a plein d'additifs, il y a des colorants, etc. Le plus simple, peut-être, c'est d'essayer de revenir aux produits de base et de cuisiner soi-même, parce que là, au moins, on sait que dans ce qu'on met, il n'y aura pas tel ou tel additif, puisque forcément, quand on l'a cuisiné, on ne l'a pas mis. Le fait maison, c'est aussi un acte, quelque part, il y a une dimension politique, en fait. Pour moi, c'est une occasion de partager des choses en famille aussi. C'est-à-dire que si on fait des cookies, des choses assez simples, on va les faire avec notre fille, parce que elle aime bien ça, déjà. Et moi, si je reviens à mes souvenirs d'enfance, finalement, j'ai beaucoup de souvenirs de moments où on cuisinait, en fait, des choses.
C'est des moments assez chouettes, je trouve, les moments qu'on passe en cuisine, parce que on n'est pas non plus exactement assis autour d'une table en train de discuter. On est affairé à faire quelque chose, mais il y a quand même des discussions qui peuvent émaner de ces moments très, très simples.
Oui, et puis, en fait, il y a aussi cette idée toute simple de créer quelque chose ensemble aussi, tout simplement. C'est-à-dire que chacun, comme on dit, met la main à la pâte et chacun a son petit rôle. Et voilà, on est tous occupés dans un but commun qui est de faire quelque chose de bon pour se faire plaisir après. Ouais. Donc, il y a ce côté un peu partage, mais partage avant même de partager le repas, c'est-à-dire partager la préparation et puis chacun participe, en fait.
Ouais.
Donc, il y a ce côté-là qui est intéressant, je trouve, et qui laissera des souvenirs à notre fille, je pense, par exemple. Et voilà, il y a ce côté-là, et puis il y a aussi la transmission, c'est-à-dire que finalement le temps en cuisine à une certaine époque peut-être était dévalorisé, c'est-à-dire que peut-être on voyait ça comme quelque chose pas forcément de dégradant, mais en tout cas du temps perdu et du temps qu'on aurait pu consacrer à d'autres activités.
Plus comme s'il y avait des choses plus nobles à faire en dehors de la cuisine.
Plus épanouissantes. Or, maintenant, peut-être, on se rend compte que, justement, ce temps en cuisine était quand même important, parce que, mine de rien, ce qu'on mange, ça reste, pour moi, un des éléments essentiels de nos vies, quand même. C'est ce qui... Tout ce qu'on va mettre dans notre corps, forcément, aura une influence sur notre santé, et puis notre état de forme général, et puis plein de choses. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut quand même rester maître, quelque part, de ce qu'on mange. Et donc, ce temps en cuisine, quelque part, il faut aussi se réapproprier.
Ce matin, en faisant la vaisselle et en réfléchissant à notre interview, j'essaie de lister un petit peu les choses qui font que j'aime beaucoup le principe du fait maison. Et en même temps que je faisais la vaisselle, je me disais, c'est drôle parce qu'il y a des moments où j'aime cuisiner pour les mêmes raisons qu'une envie de faire la vaisselle. Bon, ça m'arrive pas tous les jours d'avoir envie de faire la vaisselle, mais il y a des moments où je suis plutôt motivée à l'idée de faire une vaisselle parce que, en fait, je vois le début de cette activité et je vois la fin. Je vois le début, c'est-à-dire l'évier qui est rempli, et je vois la fin, c'est-à-dire les assiettes et les couverts propres. Et c'est ça aussi que j'aime avec la cuisine, c'est que à titre personnel, en tant que journaliste, la plupart des projets sur lesquels je me lance, donc des articles de presse écrite ou même ce podcast, c'est des projets pour lesquels je ne vois pas tout de suite le résultat fini.
Oui.
Je travaille un jour, je fais une interview, ensuite il faut réfléchir au montage avec les monteurs, il y a toutes ces étapes-là. Là, la cuisine, en fait, c'est ça qui est fantastique, c'est tu commences et a priori, dans la même journée, tu peux avoir le résultat fini.
C'est ça. Je suis enseignant-chercheur en mathématiques. Et quand on écrit un article de maths, la temporalité est très très longue. C'est-à-dire qu'entre le moment où on commence à avoir le bout d'une idée à développer et puis le moment où on rédige les choses et qu'on soumet l'article et qu'il est évalué par les collègues et finalement accepté, il peut se passer plusieurs années, en fait. Alors bien sûr, on communique son travail par d'autres biais entre-temps, mais effectivement, c'est la même chose. C'est-à-dire, entre le moment où on a l'idée de quelque chose et la réalisation, le temps est tellement long qu'effectivement, à côté, c'est important, je trouve, pour moi, et d'avoir un résultat tangible qui se mange, finalement, en l'occurrence, rapide.
Ouais.
Alors,
on a un résultat qui est comestible et joyeux et disponible.
Et puis, il y a toujours, finalement, cette petite magie quelque part qui est que voilà qu'on va mélanger des ingrédients de base et puis finalement se retrouver avec quelque chose qui est quand même construit en fait.
C'est génial, t'es chercheur, je n'avais même pas cette information en tête et effectivement faire un gâteau versus du coup être sur le temps de la recherche, c'est deux mondes.
Bah, au moins voilà, on est dans le concret là.
Le plaisir de couper un oignon après une grosse journée, je trouve ça vraiment génial quoi.
Oui, effectivement. Oui, il y a ça aussi. Alors quelque part aussi cuisiner, ça peut aussi, comme on dit, se permettre de se vider la tête. Parfois, je fais un petit peu à l'instinct, quoi. Enfin, mais c'est pas une cuisine très élaborée, du coup. Mais bon, il y a des choses de base qui marchent un peu toujours, on va dire. Et après, sinon, il y a juste à suivre la recette. Normalement, ça se passe bien.
Ouais, j'aime vraiment cette idée qu'une action dans le temps va aboutir à un objet précis et à un objet en plus comestible et partageable.
C'est ça.
Il y a un début, il y a une fin quoi, à cette activité. Oui. Un autre truc que je trouve chouette aussi avec le fait maison, c'est qu'on peut ajouter des choses par rapport aux recettes qu'on a initialement toutes faites. Mmh. Parce qu'on parle souvent du fait maison comme d'une possibilité de peut-être mettre un peu moins de sucre dans telle ou telle préparation. Mmh. Mais pour prendre l'exemple de la mousse au chocolat, c'est pas tant que par rapport à une industrielle, je vais pouvoir mettre moins de sucre que... Perso, moi, j'aime bien ajouter aussi un peu de fleur de sel.
Voilà, c'est exactement ça. Oui, ça.
Ça peut être un truc heureux et joyeux aussi, quoi, le fait maison. Pas juste, on va pouvoir manger plus équilibré.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, au début, moi, quand j'ai commencé, je suivais quand même les recettes. Effectivement, plus on fait, plus on peut prendre des libertés et puis adapter suivant ses goûts. Et c'est ça aussi qui m'a orienté vers le fait maison. C'était parce que je trouvais pas forcément dans les restaurants ou dans les pâtisseries des choses qui me plaisaient exactement. Au moins, comme on dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une part de créativité, de liberté. Et donc, on peut toujours, après, faire des assaisonnements ou varier de certaines proportions, peut-être, en fonction plus de ses goûts.
Alors moi, la mousse au chocolat à la fleur de sel à laquelle je pensais, c'est la recette de Philippe Conticini que je suis. Toi, tu as, il me semble, fait récemment des sablés infiniment chocolat de Pierre Hermé.
Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait en famille. Hein, donc, c'était avec ma femme et notre fille. Parce que on s'est dit quand même que pour ses goûters à l'école, on voulait lui donner des choses faites maison. Donc souvent elle a un fruit et quelque chose qu'on a fait maison, donc soit cookies, sablés, etc. Et il se trouve que moi j'aime bien cette recette effectivement, mais elle adore ses sablés. C'est quelque chose qu'elle a découvert finalement dans une petite pâtisserie qui n'existe plus malheureusement, que j'aimais beaucoup, qui était près de chez nous et qui vendait ses sablés. Et c'est vrai qu'en sortant de l'école, une fois je lui ai acheté comme ça et vraiment elle a adoré. Et
c'est de là que ça vient alors.
Voilà, ça vient de là. Et bon, on s'est rendu compte que c'était plus ou moins la même recette effectivement que celle de Pierre Hermé. Et voilà. Et donc depuis, c'est vrai que c'est une de nos recettes classiques à la maison parce que c'est facile. Elle adore. Et puis voilà. Au moins, on sait ce qu'on lui donne.
Alors en plus, il y a toujours un plaisir, je trouve, à faire soi-même de ces trucs qu'on connaît déjà, tout fait, acheter.
Bah oui, c'est ça. Oui.
Une fois, j'ai suivi cette recette de Dinosaurus maison sur le site de la Super Superette.
Ouais.
Et d'ailleurs, du coup, on les appelle plus les Dinosaurus. Si c'est pas la marque Lu, on les fait nous-mêmes. Et eux, ils ont appelé ça les Jurassiques, donc façon Dinosaurus. Ouais. Mais dans la même gamme, on peut aussi penser au pâté en croûte. Quand on fait son propre pâté en croûte, c'est... Ou même la première fois que j'ai fait une galette des rois, j'ai adoré aussi ça. En fait, le regard aussi hyper enthousiaste, émerveillé des amis ou de la famille. Genre, tu l'as fait toi-même. T'aurais pu l'acheter, mais tu l'as fait toi-même.
Ouais, moi-même, avant que je m'y mette un peu plus sérieusement, je trouvais ça quand même impressionnant. Enfin, je me disais quand même, ça doit être difficile à faire tel ou tel truc, j'arriverai pas, ou ça me prendra un temps fou, etc. Donc, de voir que quelqu'un y arrive, déjà, on trouve ça impressionnant, parce que on se dit, voilà, on a l'impression que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, donc on se dit que la personne a un certain talent. Et aussi, voilà, quand on nous offre ça, c'est aussi une marque de, voilà, que la personne, c'est une marque d'attention. Donc, il y a cet aspect-là aussi du fait maison. Je trouve aussi, c'est quand même une façon de montrer qu'on fait attention à nos invités, ou voilà, qu'on a passé du temps pour leur faire plaisir.
Il y a une attention qui est différente, et donc on se dit, tiens, oui, la personne a pris de son temps là pour faire
exactement,
ce truc,
voilà,
au lieu d'aller l'acheter, ce qui aurait été beaucoup plus simple.
Oui. Quand on dit les choses faites avec amour et tout, je pense que voilà, ça a quand même aussi une signification concrète.
Je trouve ça très joyeux comme démarche, le fait de se lancer comme ça dans l'apprentissage de quelque chose.
Oui. Faut pas baisser les bras aussi. Si ça marche pas, bon, ça arrive. Hein. Après, en général, moi-même, ça m'est arrivé d'avoir des ratés. Bon, au pire, on peut essayer de recycler ça autrement, ou ça reste mangeable. Mais bon.
Qu'est-ce que t'as pu rater alors?
C'était un flan. Mon plus grand raté, on va dire, parce que il y a quelques petits ratés. C'est-à-dire qu'on a l'impression, par exemple, tout simplement, genre un gâteau qu'on va cuire un tout petit peu trop, bon, il est juste trop cuit, c'est sûr que c'est pas ce qu'on aurait voulu, mais ça reste, ça va, disons.
En plus, tu peux toujours changer l'intitulé, c'est-à-dire que si tu devais faire un fondant, tu pourras toujours dire trop cuit mon fondant. Eh bien non, c'était un mi-cuit fondant sur base de...
Voilà, donc on peut toujours s'arranger avec la vérité. Donc mon vrai raté, c'était un flan qui... je pense que j'avais pas... il n'était pas assez cuit, tout simplement, à la fin.
Tu aurais pu dire que c'était une crème brûlée, dans
ouais,
ce cas.
Voilà. Sauf que comme il était vraiment gros, du coup, pas cuit, il était vraiment dégoulinant à la fin. Et donc, c'est dommage. J'aurais dû m'en rendre compte, en fait, en sortant du four. Parce que, mais bon, maintenant, avec l'expérience, je pense que j'aurais pas sorti comme ça. Mais à l'époque, bon, je débutais. Et au moment de découper, bah, forcément, splatch, quoi, la flaque.
Après avoir arrêté l'enregistreur, Arnaud m'a parlé d'un célèbre chef pâtissier dont il se dit en coulisses que les produits utilisés dans ses boutiques ne sont pas forcément qualitatifs, genre des œufs de poule élevés en batterie. Alors on est tous les deux tombés d'accord, ouais, à ce prix-là, autant récupérer la recette sur Internet et faire ça soi-même. Comme on le faisait remarquer avec Arnaud, ce qu'il y a de chouette aussi avec le fait maison, c'est la dimension apprentissage. Parce que même quand on rate quelque chose, on en sort finalement avec une bonne leçon de ce qu'il ne faudra pas refaire la prochaine fois. Et c'est un vrai défi de chercher à progresser, comme on se le disait dans un épisode précédent sur l'art de faire son pain soi-même. Tout ça me fait penser à mon pote Jean-Max, dont la recette Némésis a longtemps été la pâte à pizza. Au bout d'un nombre incalculable d'essais, de loupés et de presque réussis, il a enfin masterisé sa façon de faire, entre la bonne façon de mélanger la pâte et l'humidité du four. Mais que se passe-t-il en cuisine, à la maison, quand on est déjà une chef reconnue dont le talent n'est plus à prouver ? C'est ce que j'ai voulu savoir en recevant Tatiana Leva. Pour commencer, je lui ai demandé de nous parler, non pas du dernier plat qu'elle a élaboré pour une carte du Servant ou de Double Dragon, mais plutôt de ce qu'elle a cuisiné chez elle. Sachant qu'elle partage sa vie avec le chef étoilé du Septime, Bertrand Grébeau, je me suis demandé s'il leur arrivait d'envoyer valser toutes les casseroles une fois rentrées chez eux pour manger des plats surgelés.
Alors j'ai fait, il y a 2 jours, une poule au pot, que je fais souvent. Très facile, hein, et c'est très rapide et délicieux.
D'accord, donc du coup, ça, c'est un truc qui plaît vraiment à tout le monde chez toi.
Ouais. Ça plaît, c'est facile, c'est efficace, il y a des légumes, un petit peu de viande, du bouillon, ça réchauffe, c'est réconfortant, ça se mange avec du riz et du piment, c'est parfait.
Alors, la question qu'on se pose et qui nous brûle les lèvres, et c'est la raison pour laquelle on a absolument voulu te tendre le micro, c'est que cuisine une chef rentrée chez elle une fois les services terminés. Donc il y a cette poule au pot, mais est-ce que finalement t'es du genre parfois à craquer pour des trucs un peu honteux, genre des croque-monsieur père dodu, parce que tu veux absolument pas cuisiner?
Alors les croque-monsieur père dodu, non, pas du tout. On essaye de faire un peu attention à ce qu'on achète, donc on craque pas pour ce genre de choses. Par contre, On mange des pâtes et du jambon, des choses très simples comme ça. Nous, on est deux cuisiniers à la maison. Mon conjoint est cuisinier aussi. Donc, et on a deux enfants, donc on est contraint maintenant de se mettre au fourneau quasiment tous les soirs. Et si ce n'est pas pour nous, au moins pour les enfants. Et on cuisine des choses assez simples, des choses réconfortantes, des choses qui plaisent un peu et à la petite et à nous, mais qui à la fois prennent pas non plus trop de temps, quoi.
Et alors, par exemple, quels sont les plats un peu go-to, les trucs efficaces que vous allez préparer chez vous?
Alors, on fait alors du coup pas mal la poule au pot. On fait la spécialité philippine qui est l'adobo qu'on cuisine beaucoup. On fait souvent un adobo à la maison.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, l'adobo, c'est le plat national philippin. C'est un ragoût de porc ou de poulet avec des oignons, du gingembre, beaucoup de poivre, de la sauce soja, du vinaigre. Ça se fait très facilement, pareil. Et c'est délicieux. Et puis après, c'est vrai que nous, comme on est, pour nous, c'est facile hein, quand même de cuisiner. Ça va assez vite, quoi. Donc en très peu de temps, on arrive à se régaler. C'est un peu la chance qu'on a.
Ah bah oui, c'est sûr que. Enfin, j'aimerais bien être votre enfant, quoi. Être l'enfant de Tatiana Leva et de Bertrand Griveaux, chef étoilé. Je pense que même pour des plats très simples, vous devez avoir tout de suite le bon tour de main et le bon coup de main.
Oui, alors on a surtout la chance de faire ça vite. Et oui, après, notre fille, on a un petit bébé qui ne mange pas encore à table, mais notre fille est très exigeante maintenant avec ce qu'on lui sert à manger. C'est assez drôle. Avec les enfants, on est amené à passer plus de temps à la maison et on retrouve un peu la cuisine ménagère avec plaisir. Et on se régale, quoi.
Et vous n'êtes pas dans ce... Dégoût, c'est un mot trop fort peut-être, mais cette fatigue du travail et du coup la volonté de ne pas le faire à la maison.
Non, on a longtemps mangé dehors dès qu'on pouvait et pas du tout cuisiné aussi parce que on a longtemps pas eu trop de cuisine, habité dans des endroits où c'était pas pratique. Mais maintenant qu'on est un peu plus souple avec nos horaires, qu'on a une petite fille à nourrir, qu'on cuisine, ouais. Maintenant, on cuisine et on le fait avec plaisir. On fait ça beaucoup en vacances. C'est vraiment une grande partie de notre activité de repos, enfin de vacances. Et puis après, c'est vrai que ce qui est très contraignant à la maison, je trouve, c'est l'approvisionnement, quoi. Je trouve que c'est très difficile de trouver des bons produits dans le commerce. Il faut vraiment avoir la volonté de se déplacer, d'aller dans les commerces spécifiques où on trouve les bons légumes, les bons produits. Et ça prend du temps, en fait.
Oui, c'est vrai que ça prend au moins tout autant de temps, voire plus, en fait, que le fait même ensuite de cuisiner, de couper ces beaux légumes.
Donc ça, c'est un truc... je me dis souvent que pour les gens qui ont des horaires de bureau, qui démarrent tôt, qui finissent tard, c'est pas évident. Ouais.
Ah oui, je te posais la question de est-ce que voilà, tu en as marre de cuisiner à la maison ? Mais c'est vrai que c'est une question plutôt rhétorique parce que à ce stade d'amour de la cuisine, tel que tu le transmets avec le servant et Double Dragon, j'imagine que c'est pas quelque chose que tu fais par hasard et ce serait bien frustrant de ne faire à manger que pour les autres et de ne pas ramener ça chez soi pour soi.
Ben c'est vrai que ça a longtemps été un peu une frustration de pas pouvoir de pas vouloir ou de pas avoir le temps de recevoir et de cuisiner à la maison parce que on était dans autre chose et aujourd'hui on recuisine pour les amis, pour la famille avec plaisir et c'est autre chose et puis c'est aussi en fait c'est aussi une inspiration différente, ça nous fait penser aussi à d'autres choses. On cuisine pas les mêmes produits à la maison forcément que ce qu'on fait au restaurant et du coup ça se renvoie un peu la balle et c'est assez important pour nous, c'est assez important de le faire et ça nous fait plaisir et c'est aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui nous apporte quelque chose, je pense plutôt qu'une contrainte quoi.
Oui. Et on a eu cette discussion avec Laura, la productrice de l'émission, sur le goût du fait maison. Elle me disait que dans certains restaurants, et c'est plutôt rare, il y a tout à coup un goût du fait maison, quelque chose qui se rapproche vraiment de ce qu'elle pourrait ressentir dans une cuisine élaborée par quelqu'un. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment y avoir effectivement donc cette distinction entre le goût très restaurant, comme si en fait la cuisine de restaurant... subissait une espèce de filtre, et ensuite le truc maison.
Ouais, c'est drôle que c'est drôle de dire ça, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que vraiment il y a un truc entre ce qui est fait dans un restaurant, même si c'est exactement le même les mêmes produits, il y a comme un filtre de comme si ça a été professionnalisé ou standardisé ou qui est un peu différent.
Ça tient bon, sans doute déjà au dressage pour commencer.
Ouais, mais je pense qu'il y a une simplification naturelle qui se fait à la maison. On va un peu plus à l'essentiel. On est un peu moins dans les étapes qui parfois sont un peu contraignantes. Et puis il y a moins de, c'est-à-dire qu'à la maison on fait jamais un jus de viande, on fait jamais une, c'est parce que c'est trop contraignant, c'est trop long, c'est absurde. Enfin peut-être qu'il y a des gens, c'est très bien de le faire, mais c'est vrai que nous on le fait jamais. Or, c'est vraiment ce qui apporte la complexité, je pense, au restaurant sur un plat quoi de viande. Mais sur des choses, c'est pas, même sur des choses assez qui sont vraiment pareilles, par exemple sur un ragoût, on fait au restaurant de la joue de bœuf au vin rouge confite, et c'est vrai que quand on fait ça à la maison, ça a toujours un goût un peu différent. Alors, ouais. J'ai du mal à expliquer pourquoi, mais c'est vrai que ça a un goût de maison, quoi. C'est ni meilleur ni moins bon, c'est juste un peu différent.
Ouais. Ouais. Alors peut-être un peu le matériel aussi utilisé.
Ouais. Il y a de ça, il y a le matériel, il y a le temps, il y a un peu la simplification des étapes. Et puis il y a, je pense aussi, dans ces plats-là spécifiquement, la quantité fait beaucoup. Ouais. Quand on fait des grosses quantités, il se passe quand même quelque chose dans la casserole, il y a un échange entre les produits, les garnitures aromatiques, les choses comme ça qu'on n'a pas forcément à la maison. Et qui du coup, ça fait que le goût du ragoût maison sera un petit peu plus simple, quoi, un petit peu plus pur que ce qu'on peut faire en grosse quantité.
Et en même temps, l'inverse est aussi possible. Ça m'est arrivé comme j'aime beaucoup cuisiner aussi, de vouloir refaire en vacances avec des potes des plats que j'ai l'impression de bien réussir chez moi ou sur vraiment une marmite pour 4-5 personnes. Donc de refaire ça vraiment dans des plats plus grands et de pas retrouver le goût, comme si j'avais un peu loupé l'assaisonnement et que ce que j'arrive à faire pour 4, j'arrive moins à le faire pour 20.
Ouais, c'est sûr que c'est très différent de cuisiner pour 4 et de cuisiner pour 20. Je pense qu'il se passe vraiment quelque chose dans le... C'est pas facile d'imaginer les quantités que ça peut représenter d'assaisonner pour 20 ou de... Et c'est souvent un peu ce qui se passe quand on se met à cuisiner pour beaucoup. On est un peu surpris, quoi, de tout ce qu'il faut avoir en fait en quantité. Ouais. Et ça fait que parfois ça peut être un peu plus fade, un peu plus, mais en fait il faut y aller, quoi. C'est vrai que c'est des grosses quantités, il faut pas avoir peur d'assaisonner, de mettre de la quantité.
Comment ça se passe en fait d'être dans un foyer où alors les deux personnes vraiment travaillent dans la restauration? Du coup, comment vous partagez un petit peu les tâches en cuisine à la maison?
Chez nous, c'est très équitable. On cuisine tous les deux, mais on cuisine pas la même chose forcément. On n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes spécialités, quoi. En gros, on n'a pas les mêmes.
Ouais. Bah, du coup, oui, c'est clair qu'en ayant des influences différentes et des façons de travailler différentes.
Oui, voilà. Alors, moi, j'ai tendance à cuisiner un peu plus asiatique à la maison, lui plus français. On a la même exigence sur la qualité de ce qu'on cuisine. On cuisine pas pareil, mais on, voilà. Et ça c'est important pour nous. C'est ce qu'on a dans le frigo. Et après, on en fait pas la même chose, mais on est d'accord sur quoi acheter et quoi avoir au frais.
Oui. Ah oui, je comprends ce truc d'avoir deux styles différents dans la cuisine, parce que on rigole souvent avec mon copain, parce que moi, j'aime beaucoup faire les choses en cocotte ou quand il va y avoir justement un peu de bouillon, les choses qui vont se mijoter. Et lui, il est assez fort avec les trucs à saisir.
Oui.
Genre, il fait un truc super bien, genre les champignons, vraiment des gros bolets, mais coupés en tranches épaisses, et qui va juste saisir un petit peu à feu vif dans du beurre, tout ce qui est réaction de Maillard, quoi, justement. C'est un peu son truc. Donc, quand il y a un truc à saisir, je lui dis, bon, vas-y, c'est à toi, là.
Ouais, bah, c'est chacun ses petites spécialités. Je sais que Bertrand, il aime bien faire des petites assiettes de légumes à notre fille, là, avec plein de trucs différents. Et moi, je suis un peu comme toi, j'aime bien j'aime bien mijoter, préparer des trucs un peu en avance, avoir des trucs qui ont mijoté, qui sont un peu prêts à servir au frais, quoi.
Et mais d'ailleurs, votre fille, oui, elle doit avoir une bonne éducation au goût, quoi.
Ouais, bon, après, notre fille, elle a 3 ans. Elle a une bonne éducation au goût. Elle est très éveillée. Elle connaît plein de choses. Elle est très éveillée à ça. Elle est très exigeante. Mais bon, maintenant, elle a 3 ans. Donc, quand même, quand on lui demande ce qu'elle veut manger, elle veut manger des pâtes ou du riz.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais, ça me fait penser à ma petite sœur. Ma mère cuisine super bien et ma petite sœur, quand elle était plus jeune, parce que bon, maintenant elle a quand même 26 ans, mais quand elle était plus jeune, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était les cheeseburgers. Ou alors, qu'est-ce qu'elle aimait? Bah, justement, on parlait des croque-monsieur perdus.
Ouais, c'est drôle, bah ouais, je pense qu'on a tous nos petits trucs comme ça. Hein. Moi aussi, petite, chez ma mère, on mangeait beaucoup de nuggets avec du riz. Et c'était nos petits trucs, quoi, qui nous faisaient plaisir. Beaucoup de jambon, de choses assez simples. Mais bon, nous aussi, à la maison, on se régale de coquillettes au jambon, de choses comme ça, quoi.
Ouais.
Ouais.
Bah oui, parce que c'est des grands classiques, quoi. Ouais, de temps en temps, tu veux ce goût-là, et puis ça va pas être atteint par d'autres ingrédients.
C'est une petite fille, elle est à l'école, elle mange de tout, mais elle mange des légumes depuis qu'elle est toute petite et elle aime ça. Elle est bizarrement assez végétarienne dans ce qu'elle aime, quoi.
Ah oui, c'est bien.
Ouais, c'est bien, c'est très moderne.
C'est très moderne, ouais. Elle a compris exactement les enjeux du monde dans lequel elle va évoluer.
Ouais, donc elle aime bien le poisson et les légumes.
Ouais.
Mais oui, elle est très exigeante. Elle nous fait vraiment des remarques assez justes. Elle nous reprend quand c'est pas assez assaisonné.
C'est génial.
Ouais, c'est drôle.
C'est votre première critique.
Ouais, c'est notre première critique de. C'est vraiment avec sa naissance et le fait qu'elle ait grandi et qu'elle passe à table qu'on s'est remis vraiment à cuisiner. Et à redécouvrir un peu les repas de famille à la maison. Parce que c'est vrai qu'avant ça, quand on avait l'occasion de dîner tous les deux, on dînait dehors, quoi.
Je trouve que ça, c'est un des grands dilemmes, notamment quand on vit dans une ville comme Paris. Et bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que Paris, c'est une ville assez excitante d'un point de vue resto. Il en ouvre tellement souvent. C'est le dilemme, en fait, de quand tu aimes la nourriture, quoi. C'est à la fois donc, d'avoir envie de tester tout ça et en même temps de compter parfois les soirs où tu es chez toi et tu cuisines.
Ouais.
Vous, c'est différent parce que c'est vraiment votre métier, quoi, de faire à manger. Mais parfois, je me dis aussi que quand on aime autant aller au restaurant, donc ça veut dire qu'on aime les choses comestibles, je me dis que c'est dommage de pas aussi pratiquer à la maison, parce que je trouve que vraiment faire à la maison, ça permet d'apprécier avec un nouveau regard encore ce qu'on a dans les assiettes servies au restaurant.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pense que les gens qui cuisinent ont une manière d'appréhender un peu ce qu'ils mangent différente, parce que souvent les gens qui cuisinent à la maison ont des questions sur comment on arrive à ces résultats-là, et c'est assez agréable de discuter de ça avec eux. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que ça m'intéresse vachement de comprendre comment les gens cuisinent chez eux, ce qu'ils aiment manger, ce qui est facile pour eux ou pas, parce que c'est vrai qu'on se rend pas trop compte, nous, vu que ça nous prend pas beaucoup de temps de couper des trucs, de lancer en cuisson quelque chose. C'est vraiment des choses pour nous qui nous prennent 5 minutes. Et je trouve que c'est super intéressant de comprendre un peu ce qui est compliqué pour les gens et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment un truc que je sais pas sous quelle forme, mais dans l'année à venir sur lequel on aimerait travailler avec ma sœur.
Ouais.
Sur comment aider les gens à cuisiner et manger mieux chez eux.
Mmh. Leur livrer peut-être quelques astuces qui pourraient changer un peu leur façon d'aborder certains ingrédients.
Ouais, quel produit, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son épicerie pour faire un truc simple mais très bon. C'est vrai que nous, on se rend compte que d'avoir dans ses placards des trucs pour agrémenter des câpres, des noisettes, des bocaux de choses de vinaigre, des sauces, un peu des différents vinaigres, différentes huiles, et tout ça permet de faire très simplement des choses qui sont bonnes et qui sont un peu différentes.
Ah mais oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, là ça me fait penser à une discussion qu'on avait avec des potes intitulée « Le luxe accessible ». Enfin, on s'était dit ça. Le truc en gros sur lequel tu vas un peu craquer et donc acheter cet ingrédient qui peut-être tu vas le payer 4 ou 5 fois plus cher, mais vraiment le fait de l'avoir, ça va pimper toute une série de plats.
Bah, c'est clair que ça c'est un truc... super important, je pense, et moi qui vraiment me passionne, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir dans son placard pour faire un truc bon en 5 minutes, quoi. Parce alors il y a des fois où on a vraiment envie de cuisiner pour les copains et tout, et puis il y a aussi plein de fois où on a juste envie de manger un truc bon, mais on a 5 minutes pour le faire, et ça devrait être possible, et on s'est bien creusé la tête pour savoir ce qu'il fallait qu'on ait dans nos placards, et là je pense que ça y est, on a trouvé. Donc on a des super moutardes, des capres, des condiments comme ça, du vinaigre fumé japonais là qui rend tout délicieux, un bon beurre, voilà, des choses assez simples mais qui nous permettent de faire un truc très rapide, très bon.
Ouais, ah oui, les basiques vraiment, ouais. De l'armoire, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est vraiment un truc facile et important, quoi. Donc cuisiner bien à la maison.
Ouais. Moi, je militais justement auprès des potes avec qui on discutait pour qu'ils achètent, qu'ils se craquent un peu à acheter une très très bonne huile d'olive. On a eu cette discussion l'été dernier et je leur disais, bon, ben, moi, je suis allée chez Rapp, je me suis fait conseiller au niveau huile d'olive, mais j'ai reçu des conseils dignes d'une œnologue, en fait. On m'a vraiment expliqué les différences entre les huiles d'olive, comme on pourrait parler des cépages dans un vin et des origines géographiques. Et cette huile d'olive que j'ai, bah, qu'on va mettre en description d'épisode, mais elle est absolument incroyable. Cet été, en fait, on coupait rapidement quelques légumes, on ajoutait de l'ail en chemise, et puis ensuite cette huile d'olive, et c'était parfait.
Bah, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on se dit au restaurant, et c'est d'autant plus vrai, je trouve, à la maison. C'est plus meilleur est le produit, plus facile ce sera, quoi.
Alors, une autre question que je me posais aussi, c'est qu'est-ce que tu manges avant un service? Il y a quoi, en fait, dans le cahier des charges d'un plat idéal avant de prendre le service? Parce que j'imagine qu'il te faut de l'énergie.
Oui.
En même temps, il ne faut pas que ce soit trop lourd, sinon la digestion est pénible.
Mais moi, j'aime pas du tout commencer un service le ventre trop plein. Et à la fois...
T'as envie de dormir, en plus.
Ouais, j'ai envie de dormir, je me sens pas bien. Et j'ai pas du tout envie de goûter si j'ai trop mangé. Donc, c'est problématique. Et à la fois... je peux pas non plus commencer un service si j'ai pas mangé parce que j'ai pas de jus. Donc c'est une vraie question. Alors au servant, on ne mange que des légumes. On mange de la viande une fois par semaine et du poisson une fois par semaine. Et sinon c'est légumes.
C'est le staff meal alors, tout le monde mange la même chose.
Perso, ouais. Mmh. Ouais.
Et à ce moment-là, donc la cuisine que vous mangez entre vous est quand même assez différente des plats dressés que vous allez servir après.
Oui, bah oui, rien à voir. Hein. Bon, à la fois, c'est fait avec les mêmes produits. Hein. On n'achète rien spécifiquement pour le perso. Mais alors, c'est beaucoup fait aussi avec les parures de viande ou des choses comme ça qu'on n'utilise pas forcément pour le restaurant. Donc, il y a très peu de gaspillage parce qu'on peut faire des choses délicieuses avec tout ça aussi. Donc, on n'achète rien spécifiquement, mais on ne mange pas du tout la même chose que les clients. Ouais. On mange des choses plus simples. On fait de la vraie cuisine de maison, en fait. C'est des choses qui ne doivent pas prendre trop de temps parce qu'on n'a pas de communard non plus. Enfin, on appelle ça un communard, les gens qui font le staff meal. Mais donc, ça rentre un peu dans la mise en place du restaurant. Mais il faut que ce soit bon et convivial et que ça reste chaud longtemps dans une casserole parce que tout le monde ne mange pas forcément en même temps, donc que les gens qui mangent plus tard mangent aussi chaud. Et...
Ma dernière question, c'est une question un peu plus fun, c'est est-ce que tu as des plaisirs coupables donc en nourriture, comme on peut avoir des plaisirs coupables en musique, genre moi c'est Toxique de Britney Spears, quand ça passe je me sens obligée de me cambrer, de me mettre contre tous les murs de la pièce. Est-ce que t'as la même chose donc en alimentation? Genre, je sais pas, les surimi ou la pâte à tartiner bicolore.
Bah, j'en ai eu pendant très longtemps. En fait, on s'est un peu radicalisé, je pense, dans notre manière d'acheter et de manger. Et c'est vrai qu'on s'autorise beaucoup moins les plaisirs coupables, même si ça peut être un peu rabat-joie de dire ça. C'est vrai qu'on est très engagé à la maison et dans les restaurants. Sur comment on mange et ce qu'il faut acheter et le fait maison, mais surtout le bio, les petits producteurs, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec le temps, on a de plus en plus de mal à acheter des choses issues de l'industrie.
Oui, c'est vrai que quand tu fais cette transition-là, c'est difficile de revenir en arrière.
Ouais, c'est difficile et puis c'est vrai que ça, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Mais après, s'il y a un truc que je mange de temps en temps, que je m'autorise, c'est les nouilles. que je devrais pas, c'est les nouilles instantanées.
Ah oui,
ouais, ça c'est un peu mon enfance.
Bah, c'est vrai que enfin quand t'as beaucoup de souvenirs attachés à ça, c'est difficile parfois de pas recraquer.
Mais c'est vraiment la nouille en elle-même frisée comme ça. Donc on a trouvé une super alternative d'une nouille qui est délicieuse, et parce que c'est vrai que les petites poudres et tout, j'ai plus de mal maintenant.
Ouais.
Mais la nouille en elle-même, la nouille en elle-même est super. Et ma grand-mère, elle nous faisait des nouilles ondulées comme ça avec du beurre et de la sauce soja et du vinaigre. Et ça fait un beurre qui a le goût un peu... C'est très umami et c'est trop bon.
Tatiana Leva et Fulgur Aupin sont deux personnes qui ont la gourmandise et des convictions attachées au corps, comme celle de privilégier des ingrédients bons pour la santé et de prendre le temps de cuisiner. C'est ce que l'on devrait souhaiter à n'importe qui sur Terre, finalement, car tout le monde mérite de bien manger. Mais soyons honnêtes, quand on cumule deux tafs mal payés et qu'on est une mère divorcée avec trois enfants à nourrir, c'est parfois plus simple de se décongeler des lasagnes surgelées le soir en quelques minutes au micro-ondes. C'est là tout le débat autour du fait maison. Bien sûr qu'il faut le prôner, parce que quand on a du temps devant soi, c'est moins cher que manger dehors ou se faire livrer. Mais sommes-nous toutes et tous à égalité devant le fait de cuisiner ? Il existe clairement une fracture sociale dans l'art de faire à manger chez soi. Alors, sans dire que chacun devrait avoir chez lui des armoires remplies de produits d'épicerie fine, il y a un réel enjeu autour de l'éducation à l'alimentation. Même un petit budget devrait pouvoir se concocter des plats pas très chers et pourtant super savoureux. Quand on regarde dans le détail, c'est souvent d'ailleurs ce que permet le fait d'acheter des légumes de saison et de valoriser les restes. Merci à Fulgur Aupin et à Tatiana Leva de nous avoir donné de leur temps pour parler de fait maison. J'espère que cet épisode vous a donné envie de cuisiner. Pour avoir des idées, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram de Bouffon, mais aussi le mien. Vous y trouverez certaines de mes recettes préférées. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain!